soir, à partir de 21h,
ou vers la nuit. Bonsoir. L'idée de ce nouveau rendez-vous est assez simple en fait.
Tous les soirs, on vous invite dans notre salon où vous attend notre bande de passionnés.
C'est eux qui vous commenteront l'actualité culturelle et artistique du jour.
Et puis, pour plonger dans la nuit et voyager plus loin, nous recevrons des hommes et des femmes sacrément intéressants. Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs,
voilà.
Des conchyliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h. France Inter, la différence.
Mais pour l'instant, c'est ouvert le jour et c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Celui qui consent sa soumission, l'aliéné loyal envers son maître, l'esclave participant à son asservissement, le soldat défendant corps et âme, le tyran maintenant son genou à terre, celui-là n'a que deux choix, se révolter ou périr. Vivons nos vies.
Oui, bonjour. Alors là, je suis obligé d'appeler parce que les propriétaires là de la maison Phoenix, on va pas les plaindre, franchement. Ils ont voulu défiscaliser, spéculer, et ben voilà, ils ont été punis. Ils voulaient faire de l'argent sur le dos des autres, et ben voilà, c'est réglé. Allez, salut, c'est Stéphane de Nice.
Bonjour à tous, j'ai écouté l'émission d'aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Et sur les pigeons de l'escroquerie immobilière, le mot pigeon m'a pas plu parce que je pense que ces gens-là sont des victimes en fait. Hein. Il y a une telle masse de propagande que je n'ai pas aimé le terme pigeon. Je suis d'accord sur l'analyse, elle est magnifique. Hein. C'est pas le sujet. Mon sujet, c'est plutôt le flash info qui a suivi l'émission sur les pigeons de l'immobilier. Il y avait une phrase extraordinaire à propos de l'Islande. L'économie de l'Islande va mieux, mais pas les Islandais. Pas les Islandais. Alors, ça révèle, me semble-t-il, une escroquerie permanente de la science économique ou de la science orthodoxe, parce que si cette assertion est correcte, qui distingue l'économie de l'Islande des Islandais, alors l'économie n'est pas synonyme de l'intérêt général. Donc, ça veut dire c'est synonyme de certains intérêts particuliers. Je crois qu'on ne pouvait pas, ce France Inter, s'exprimer plus clairement. Voilà, c'était Yves de Paris, 14e.
Il a toujours existé des programmes de défiscalisation. Il y a 15 ans, on investissait dans les dom-toms, ou dans les chambres d'hôtel, ou dans des bateaux. La classe moyenne supérieure, comme disait un des intervenants de l'émission, à l'époque, c'était essentiellement des dirigeants de PMI-PME, et s'étaient rués sur ces produits, car ça leur donnait des boutons à ne payer soit trop, soit plus, enfin bref, des impôts, quoi. Et bien, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, car ces pigeons, soi-disant la fine fleur de l'esprit entrepreneurial, ont été piégés dans un système qu'ils portaient pourtant au pinacle. En contrepartie, ils payaient à l'époque leurs salariés au lance-pierre et même dans l'irrespect du droit du travail, aveuglés qu'ils étaient par les mirages de l'enrichissement capitalistique. Décidément, ces petits patrons, cette classe moyenne supérieure, qui ne sont pas des emblématiques patrons du CAC 40, en copient pourtant toutes les tares. Alors, je leur fais confiance pour s'organiser et faire valoir leurs droits. C'est Noël de Nantes.
Bonjour. Permettez-moi une réflexion à propos de l'émission d'hier sur la loi de défiscalisation de Messine. Que des individus gagnant bien leur vie veuillent échapper à l'impôt ou qu'ils se fassent plumer par des escrocs me semble appartenir au même ordre des choses. Mais s'il y a effet pervers et dérive de cette loi de Messine, c'est bien qu'un membre du gouvernement, communiste de surcroît, préfère manipuler par incitation le marché de l'immobilier à l'aide de la défiscalisation, plutôt que de tout simplement réorienter le produit de l'impôt vers une réelle politique pour laquelle il aurait été élu. De la même façon, s'il y a scandale, c'est bien qu'au prétexte de défiscalisation, les citoyens puissent impacter l'urbanisme de zones où ils n'habitent pas, particulièrement quand on connaît la laideur et la survie que génère en France comme à l'étranger ce genre de projet touristique de soi-disant développement. Merci.
Bonjour, c'est Marie-Vaude Lyon de Rennes. J'ai envie de témoigner pour dire que les prolos, il y en a encore 6 millions, on ne peut pas les gommer d'un seul coup. Cette phrase est une phrase entre guillemets de Jean-Pierre Levaret, écrivain, qui travaille depuis 32 ans dans une usine chimique à Rouen et est l'auteur de Putain d'usine, entre autres, paru aux éditions Argonne. Selon un de ses camarades de travail, vu dans l'émission FR3 Normandie, putain d'usine, les patrons qui écrivent, ça gêne personne, un ouvrier qui écrit, ça gêne tout le monde. Grâce à Martine Laval, critique littéraire aux matricules des anges, je me suis également procuré le livre « Une semaine de péché » de Folk Friedel, un des derniers représentants des écrivains prolétariens suédois nés en 1904, dont voici une partie de la quatrième de couverture. Ouvrez les guillemets. Ce livre est le récit d'une entreprise menée très littéralement envers et contre tous, car les plus étranges alliances se nouent dès qu'il s'agit d'empêcher quelqu'un de se révolter, c'est-à-dire de venir perturber l'ordre social, économique, politique, intellectuel, spirituel, voire familial. C'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, car si Corran Johnson faisait école, Conrad Johnson est l'ouvrier d'usine, alias numéro 403, héros du livre. J'en viens facilement au chien de garde de Paul Nizan. Ouvrez les guillemets. Paul Nizan, vous mourrez de modestie, osez désirer, soyez insatiable, ne rougissez pas de vouloir la lune, il nous la faut. Ce message pourrait être en hommage à mon père, mort à 50 ans, ouvrier SNCF, tombé sur une ligne haute tension, un dimanche, jour d'astreinte. Merci Daniel Mermet pour vos émissions, que j'écoute depuis très 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 longtemps.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Budapest. On commence une série de reportages à Budapest. Ça ne vous a pas échappé, il y a eu dans les médias un hommage unanime à Pierre Bourdieu à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Il faut s'en réjouir, même si l'opportunisme n'y est pas pour peu. Il faut dire qu'avec la crise, le déguisement de l'indigné antilibéral se porte beaucoup cet hiver, dans les médias. Parmi les choses délicieuses que vous pouvez faire, c'est jeter un petit coup d'œil dans le monde diplomatique de ce mois-ci concernant Pierre Bourdieu, tout ce qui a pu être dit sur lui par des personnages comme BHL, par exemple. Bourdieu, il n'y a rien, il n'y a pas un fait, il n'y a que des diatribes, il n'y a pas un fait. C'était dans Le Point du 29 juin 1996. Ou bien Jean-Marc Sylvestre, sur LCI en janvier 2002, il a fondé, il parle de Bourdieu, il a fondé beaucoup de ses analyses sur des archaïsmes et des erreurs historiques. C'est un véritable festival. Philippe Solers, par exemple, en 1999, qui nous dit « Bourdieu, c'est le stalinien typique ». Evie Plenel, en février 1998, qui condamne la vision schématique de l'univers médiatique par Pierre Bourdieu, et puis Alain Finkielkraut en juillet 99 sur France Culture. Bourdieu conduit, dit-il, une critique totalitaire. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi de revenir sur une émission du 2 mai 2001, la sortie du film de Pierre Karl, La sociologie est un sport de combat, un film consacré à Pierre Bourdieu. Et il y avait là, ce jour-là, avec nous, Thierry Di Cepolo, des éditions Agone, Franck Poupeau, chercheur sociologue, Serge Halimi, du monde diplomatique, Gilles Balbastre, l'un des réalisateurs du nouveau Chien de garde, et Pierre Karl, évidemment, le réalisateur du film, histoire de dire que le combat continue.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, la sociologie est un sport de combat où Bourdieu n'y maître.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, c'est comment dire, les gens ont très inégalement des choses à cacher, hein, aussi ça. Mais bon, et les gens qui vous disent ça, c'est vous n'enregistrez pas, etc. C'est quand même surtout les gens de pouvoir. Mais vous savez, si vous parlez avec un chômeur, un sous-prolétaire, etc., qu'est-ce qu'il a à cacher? Si, il peut être emmerdé, s'il dit ses opinions politiques pour son travail, des choses comme ça. Pff, non, pas quand même. Mais... je sais pas.
Et c'est très difficile avec une caméra de la télévision.
Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Lui, par exemple, je sais pas, moi je pense qu'il faut faire un truc très léger comme ça. Les gens oublient assez vite. Très souvent, enfin, c'est en ethnologie, on a ce problème-là, les informateurs, comme on les appelle, quoi, qui sont souvent des gens qui sont à la fois dedans et dehors, des gens qui sont marginaux dans le groupe, et de ce fait, à la fois plus lucides, est plus libre que les autres. Quoi. Bon. Et ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Enfin, moi, je sais que dans mon travail, pratiquement dans tous les univers, je suis toujours à la recherche comme ça de la personne qui, par sa position, sait déjà beaucoup de choses.
Voilà, ben aujourd'hui une émission qui va pas marcher, vous n'allez rien comprendre, c'est trop intello pour vous. Voilà, je le sais parce que je suis dans les médias et nous on sait ça dans les médias, ne me demandez pas pourquoi, puisque je suis dans les médias. Mais je le sais, les médias savent ça, nous savons ce que vous pensez, nous savons vous aider à penser, on est là pour ça. Les médias savent ce qui est bon pour vous. Pas de prise de tête, vous avez des problèmes, vous avez besoin de rêves et d'évasion. Aussi, la vraie question est, combien d'auditeurs allons-nous perdre aujourd'hui ? Une heure sur Bourdieu, c'est abusif, c'est une heure autour de Bourdieu, mais sans Bourdieu. Combien vont-nous laisser pour Bouvard ou Ruquier ? Eh oui, Bourdieu contre Bouvard, Bourdieu contre Ruquier. C'est le degré zéro de l'audimat, c'est de l'anti-radio. Combien vont tourner le bouton en disant « j'y comprends rien » alors que ces gens vous volent du bien ? Pas seulement Bourdieu sans confession ni concession, mais toute une chouette de bandes de jeunes chic-tics autour du pervers et corrosif Pierre Carl. Vous vous souvenez, Pierre Carl, pas vu, pas pris. Eh oui, ben le revoilà. Mais, je le dis, Zay, pas seul. Il y a avec lui Thierry Dissépolo, éditeur sulfureux, les éditions Agone, des sociologues, hein, Pierre Rimbert, sociologue au Centre de Sociologie Européenne, qui est journaliste également, Franck Poupeau, docteur en sociologie, qui est membre de Raison d'Agir, du collectif Raison d'Agir, Pierre Carl, dont je parlais, qui se dit journaliste également, Serge Halimi, journaliste au Monde Diplomatique, et puis Gilles Balbastre, également journaliste et réalisateur de télévision. Le film « La sociologie est un sport de combat » sort aujourd'hui même. Je ne ferai pas de critique, je ne vais pas vous dire ce que vous devez en penser, mais je me permets de vous inciter à aller le voir pour une raison très simple, c'est que c'est bourré, mais absolument bourré, de grains à moudre, tout simplement. C'est un effort pour comprendre et faire comprendre une pensée en action qui propose des outils pour comprendre ce qu'il y a derrière la façade, dans l'air du temps, dans ce qui ne se voit pas. On s'en doute bien qu'on nous bourre plus ou moins le mou. La défiance croissante vis-à-vis des médias, par exemple, le Monde. Mais si on se contente de cette inquiétude, eh ben, on se rend assez malheureux. On retourne parfois les choses contre soi-même. Et il arrive qu'on propose, après tout, c'est le travail des chercheurs, c'est le travail des intellectuels, que de nous proposer. Ils sont payés pour ça. Ils ont les moyens de ça, de nous proposer ces visions. Souvenez-vous de l'entretien que nous avait accordé Cornelius Castoriadis, par exemple, eh ben ça a été une grande découverte pour nous et pour beaucoup d'entre vous. Et puis c'était jubilant. J'espère que vous allez retrouver de cette jubilation sur France Inter. Bourdieu, n'y mettre. Carl, on commence par la grande question. C'était quoi tes intentions en commençant ?
Alors, c'est une question. Déjà de permettre d'avoir un accès à la pensée, au travail de Pierre Bourdieu, ce que les grands médias ne font pas, enfin ils ne donnent pas la possibilité, je crois, de. On connaît énormément son nom est très connu, mais son travail, son œuvre, sa pensée l'est moins. Et donc je voulais briser une sorte de silence médiatique autour de cette pensée, de ce travail. Sachant qu'il ne s'agit pas d'un travail de vulgarisation, enfin celui que j'ai fait moi, mais plutôt une sorte d'introduction ou d'initiation à Pierre Bourdieu, à son travail.
Mmh. Quelle réticence il a eu ? Quelles ont été ses conditions ? Comment t'as fait pour le convaincre ?
Ça l'emmerdait déjà d'être filmé et qu'il y ait une caméra qui le suive comme ça en pas mal de circonstances, même s'il s'agissait toujours dans une situation de travail, disons. Mais ce qu'il avait peur, c'est que la caméra génère des comportements, pas les siens, mais de la part de ses interlocuteurs, qu'elle occasionne des gênes, qu'elle mette les gens mal à l'aise. Mais c'est pour ça que il y a certaines choses que j'ai pas pu filmer. Par exemple, j'ai pas pu filmer en compagnie de jeunes étudiants Il souhaitait pas, par exemple, que je le filme lorsque des jeunes étudiants en sociologie venant d'Allemagne, du Japon, des États-Unis viennent dans son bureau pour parler de leur travail. Ça aurait été intimidant pour eux, donc il est toujours très soucieux de ce genre de choses. Et en quoi ma présence va modifier la situation. Mais ça, ce sont des réflexes de sociologue, je crois. Hein.
C'est Bourdieu en action, c'est Bourdieu au travail, parlant avec des gens, rencontrant des gens, mais c'est pas Bourdieu intime.
Oui, moi ce qui m'intéressait c'était son intimité au travail. Alors je sais pas si le film est réussi de ce point de vue-là, mais en tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Après, le film est quand même une interprétation de Bourdieu, donc c'est le Bourdieu tel que moi je l'ai vu, enfin c'est Pierre Bourdieu tel que moi je le vois. Et par exemple, il y a ce mélange là que je qualifierais de mélange de puissance intellectuelle et de fragilité. Donc ça, on pourrait considérer que c'est intime, dans le sens où c'est une image de lui, enfin c'est une perception de lui qu'on n'a pas en temps normal, en tout cas que les grands médias ne permettent pas de voir. On le présente plutôt comme quelqu'un de très sûr de lui, d'arrogant. On le qualifie de mandarin. Enfin, c'est des choses qui sont totalement stupides. En tout cas, ça résume pas Bourdieu, quoi. Et le film a été en partie réalisé pour établir la vérité là-dessus.
Est-ce que une question que je me suis posée tout le long du film, est-ce que c'est sa vie normale, ça? Parce que tu le filmes dans une succession de rencontres, de débats, des fois simplement avec des élèves d'un lycée, une autre fois avec des travailleurs sociaux, etc. Est-ce que c'est sa vie normale? C'est sa vie toute l'année, ou bien c'est pour les raisons du film que tu l'as fait bouger comme ça?
Non, je n'ai généré aucune situation. Enfin, c'était sa vie normale, entre guillemets, mais non, c'est pas l'intégralité de sa vie. Mais en tout cas, une grande partie de son travail aujourd'hui, de son activité, c'est d'aller porter la sociologie dans des lieux où on ne l'attend pas. Par exemple, on va le fourrer, comme on le voit dans le film. C'est d'aller s'expliquer ou d'aller expliquer son travail dans des radios associatives. Mais c'est quelqu'un qui est obligé de rabâcher un peu souvent la même chose et de vulgariser ses principaux concepts, quoi. Mais je l'ai pas filmé il y a 40 ans, quand il était ethnologue en Kabylie. Moi, je l'ai filmé entre 97, 98 et 2000. Et à ce moment-là, voilà ce que j'ai...
On dit, mais il n'arrête pas, ce gars-là. Quand on le voit là, après... Enfin, évidemment, c'est les effets du film. Hein, c'est fait un film de 2h20. Mais on a l'impression qu'il n'arrête pas. Quoi. Il est toujours dans un train, dans un avion, dans une bagnole. Il rencontre des gens.
Non, mais effectivement, je crois qu'il n'arrête pas et que sa vie entière est consacrée à la sociologie, et à produire de la science et à l'expliquer. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui apparaît dans le film et qui est la vérité.
Oui, Gilles Balbas, tu veux dire quelque chose?
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Pierre. C'est pas uniquement la pensée ou le travail de Pierre Bourdieu qu'on ne montre pas dans les médias. C'est la pensée, le travail d'un grand nombre d'intellectuels ou d'universitaires. Alors, il y en a certains qu'on voit, ce que Bourdieu appelle les demi-habiles, ceux qui vont se faire valider dans les médias, mais il y en a des tas d'autres qu'on ne voit pas. On a plus la pensée, je dirais, de Zidane sur le monde que de certains nombres d'intellectuels, parce qu'effectivement, les médias ne permettent pas de prendre le temps d'expliquer une pensée, de la développer, etc. Parce que les médias imposent, ça c'est quelque chose d'important, une temporalité qui n'est pas celle des scientifiques ou des universitaires. Elle impose sa propre temporalité, c'est-à-dire une temporalité immédiate, rapide, donc qui est le contraire de la pensée. Mais c'est les médias qui imposent, il n'y a pas que Bourdieu là-dessus, c'est tout le monde, ça c'est important de le dire.
Mais ça, Gilles Balbastre, ça on vous répond, mais il y a des médias qui sont prévus pour ça. Il y a France Culture, par exemple, qui est prévu pour ça. Il y a Arte, qui est prévu pour ça. Il y a les endroits où on pense, où on réfléchit, où les intellectuels ont leur l'endroit où ils peuvent s'exprimer.
Il y a des créneaux, hein. Je veux dire, Arte, ils ont refusé le film de Pierre, ils peuvent en parler plus que moi, parce que ça faisait pas 52 minutes. Moi, je fais de la télévision, je suis journaliste, faut que ça fasse 52 minutes. Là, je vais m'embêter, moi, à faire deux films sur l'histoire du chômage en deux fois 52 minutes. Le deuxième, il faisait 1h10. Ben, il a fallu que je le réduise à 52 minutes. Et parce qu'il y a une temporalité, il y a une vitesse de traduction qui est de plus en plus rapide. Et ça, c'est vrai que le film de Pierre s'oppose à ça. S'oppose, pas, il pose le temps, effectivement. Dans Nouvelle Obs, ils disent, il y a un quart d'heure, comme ça, plan fixe, de Bourdieu. Ben oui, pourquoi pas.
La sociologie est un sport de combat.
On y va?
Oui.
Un film de Pierre Carle.
Donc il y a un capital de connaissances du monde social qu'on hérite de son milieu, de son expérience sociale, etc. Bon, alors c'est bon. Alors mon expérience sociale, qui n'était pas le monde intellectuel parisien. Bon,
Pierre Bourdieu.
Ça a été redoublé par mon expérience de l'Algérie, où j'ai donc fait des enquêtes en situation dangereuse, quoi, je pense, ça m'est arrivé 2-3 fois, selon la réponse que je donnais, je pouvais m'en tirer vivant ou mort, quoi. Bon, selon la manière de poser les questions, etc. Je n'avais pas d'autre protection dans une situation de guerre civile que ma bonne tête et ma manière de me présenter, de faire attention, etc. Bon, alors ça met du plomb dans la cervelle, quoi. Ça a été important. Voilà, ouais, évidemment, l'autre chose aussi, moi, j'ajoute ça, c'est que j'ai eu l'idée, comme je travaillais sur la Kabylie et que je voyais beaucoup d'analogies avec le Béarn, enfin, les structures familiales, les rapports entre les sexes, etc. Ça, je me suis dit, il faut que j'aille étudier mon village. Voilà. Bon, je vais faire un retour chez moi le moins exotique possible. Je vais rendre exotique le banal. Quoi, bon. Et alors j'interviewais des copains à moi. D'ailleurs, les types, je m'aperçois très vite, ils savaient l'essentiel. Ils savaient m'expliquer. Et pourtant, ils ne savaient pas comme moi. C'est pas pareil de savoir abstraitement. Bon, ça m'a fait beaucoup réfléchir.
Avec nous, il y a des sociologues, un éditeur, un journaliste qui est Serge Halimi. Moi, je voudrais savoir comment, en tant que sociologue, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de Pierre Carle?
Ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il n'a pas essayé de réhabiliter Bourdieu, par exemple. Réhabiliter Bourdieu contre les attaques médiatiques depuis 96-97, et il a montré le travail sociologique qui se fait.
Oui, parce que ce nom parle balbastre, là, de la question, le rapport de Bourdieu et des médias, ça tu l'as traité dans un court-métrage qui est tout à fait différent, qui est l'histoire avec Schneiderman, la fameuse histoire avec Schneiderman, enfin la fameuse histoire pour ceux que ça intéresse, où Bourdieu parle de ça. Ça c'est médias d'un côté, mais là il n'en est pas question.
Non, justement, c'est le travail, de, à la limite, le travail quotidien, le travail de tous les jours, un travail qu'il fait depuis 30 ans... Vous regardez Questions de sociologie en 80 ou d'autres livres comme Chose dite ou Raison pratique, c'est des recueils extraits de conférences qui ont été faites devant, je sais pas, des profs de gym sur le sport, devant des travailleurs sociaux, devant des étudiants ou au Japon ou en Italie ou n'importe où. Voilà, c'est aussi le quotidien du travail, qui est pas seulement un travail de recherche ou d'écriture, mais qui est aussi un travail de diffusion et de rencontre, un travail d'écoute. Je crois que c'est aussi ce qui est frappant dans le film, c'est d'avoir pu saisir cette capacité d'écoute du sociologue.
Là, je tiquais parce que Pierre Carle disait vulgarisation. C'est vrai que c'est un mot embêtant, vulgarisation.
Non, c'est pas un film de vulgarisation.
Hein. Vulgarisation, ça veut dire ça va de haut en bas, quoi.
On n'a qu'à dire diffusion, voilà. Un travail de diffusion des acquis du travail scientifique. Vulgarisation, c'est vrai qu'il y a le mot vulgaire dedans.
Franck Poupeau.
C'est vrai que ce contre quoi se bat Bourdieu depuis les années 60, c'est contre un travail sociologique qui n'aurait que des fins académiques et qui n'aurait aucune prétention à changer les choses du monde social qu'il étudie par ailleurs. Voilà. Bon.
Serge Halimi.
Oui, moi je peux parler du film comme quelqu'un qui n'est pas un sociologue, parce qu'il me semble qu'il démontre que la sociologie n'appartient pas au seul sociologue. Que lorsqu'on connaît un certain nombre de choses sur le monde social, sur les sciences sociales, on a ce que Bourdieu appelle un devoir de sortie, surtout quand on est confronté à ce sentiment d'urgence qu'éprouvent ceux qui voient un certain nombre de farceurs, d'imposteurs, de falsificateurs, qui parlent au nom de la science, pour faire avancer les intérêts de ceux qui dominent le monde social. Donc quand on a un savoir qui permet d'apporter à ceux qui sont dominés les moyens de se défendre, ce travail, on a le devoir de le faire passer. On a le devoir...
C'est peut-être une raison de son exécration, de la part de son propre milieu, sans parler des médias.
Oui, parce que ce travail qu'il veut faire passer, il a bien compris aussi qu'il y a d'autres moyens de le faire passer que de passer par les médias. La communication ne se résume pas uniquement au dialogue qu'on peut avoir avec un certain nombre de journalistes. On peut communiquer hors médias, et ce qu'on voit dans ce film, c'est Bourdieu qui fait des réunions, des entretiens avec des chercheurs, avec des étudiants, et on voit aussi les effets de cette communication. Cette communication a des effets sociaux qui naturellement surprennent beaucoup les journalistes, parce que cette communication se déroule hors médias. Et je crois que c'est tout l'intérêt du film de montrer à la fois le devoir d'un chercheur en sciences sociales qui veut communiquer.
Est-ce que c'est, Serge Animé, est-ce que c'est pas le devoir de tous les intellos, de tous ceux qui ont la chance d'avoir ce que un capital culturel, un capital de connaissances, qui en plus, c'est le cas de certains parmi vous qui ont une situation confortable, disons, et un statut social enviable, prestigieux. Est-ce que c'est pas tout simplement un devoir d'essayer de proposer aux autres des approches du monde, des outils pour voir le monde?
À mon sens, oui, c'est la responsabilité de l'intellectuel, pour parler comme Saïd, mais je pense que Chomsky aurait la même démarche, de faire connaître un certain nombre d'idées qui peuvent transformer la perception du monde de ceux qui, le cas échéant, souffrent le plus dans le monde, et de leur montrer que ce qu'ils subissent n'est pas le produit d'une fatalité ou d'une loi naturelle, mais d'une construction sociale susceptible, comme toute construction sociale, d'être démantelée, transformée et remplacée par autre chose.
C'est ça qui fait courir Bourdieu. Il y a un mot qui n'est pas tellement utilisé, c'est l'intellectuel engagé. Hein, c'est un vieux mot des années 50, 60, mais on le dit pas. D'ailleurs, on ne dit pas beaucoup intellectuel, on ne dit plus engagé. Serge Alimi ?
Il me semble que ça devrait être un pléonasme. Mm-hmm. Non ? Intellectuel engagé. Ouais. Surtout quand on travaille dans le domaine des sciences sociales. Je veux dire, quand on est biologiste, on peut penser que la biologie s'adresse pas nécessairement aux tout-venants, que ça concerne d'abord les biologistes, et encore. Mais enfin, quand on fait de la sociologie ou de la science politique ou de l'anthropologie, si on fait pas passer ce savoir, si on se dit pas qu'on a peut-être une responsabilité à transformer un état de choses qui est inacceptable, franchement, à quoi on sert ?
18h24 sur RDC 95.5 FM, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, donc, qui est avec nous en direct.
La sociologie est un sport de combat.
Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale.
Un film de Pierre Carle.
Expliquez-nous tout à nous qui ne sommes pas forcément donc pas des familiers de vos œuvres, de votre œuvre.
Une chose me semble-t-il importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. On dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors moi j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence. Bon, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors, celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire. Il ne deviendra pas ouvrier, etc. Bon, par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Et ça, alors la maîtresse leur dit « mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. » Alors ils sont contents, ils savent, voilà, maman. Et du coup, ils sont bien vus, comme on dit, et donc ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a des inégalités, ces inégalités tendent à se perpétuer.
Thierry Dissépoulos, si tu avais ce film à raconter à quelqu'un qui ne l'a pas encore vu ou qui n'a aucune chance de le voir, comment tu t'y prendrais ?
C'est super facile, ça.
Une question.
Bon, je crois qu'on est tous là, pour donner envie aux gens d'aller le voir. Même à la limite, la dernière fois que j'ai dû intervenir en face de gens pour présenter le film de Pierre, à la fin, les gens m'ont dit, mais c'est pas possible, on va pas aller voir 2h30 de sociologie, c'est insupportable, on va s'ennuyer. Donc, il a fallu que je revienne en arrière à dire, mais justement, ce film-là n'est pas du tout fait pour les consciences savantes, remplies et endormies de savoir universitaire. Elle est fait pour les gens à qui ça peut être utile, qui vont rien y apprendre au sens strict, parce que le film, pour reprendre un terme qui n'a pas été utilisé, n'est pas didactique du tout. Il n'y a aucun concept qui soit expliqué, qui est explicité dedans. Effectivement, il n'y a pas de vulgarisation. Je ne sais pas si le terme introduction est même juste. C'est on assiste plutôt, en fait, à un travail. On voit quelqu'un au travail, du début jusqu'à la fin. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que le bonhomme qui est en face de nous, il peut être quelqu'un dont on va utiliser la pensée après. Mais c'est après que ça se passe. C'est pas pendant le film. C'est quand on sort de là, on dit voilà, ce bonhomme-là, il a traité tout un tas de sujets. Ces sujets-là, maintenant, les outils, ils sont à aller chercher. C'est-à-dire qu'il va falloir s'attaquer au livre. Il va falloir s'attaquer à vraiment la matière que lui a livrée et qu'il nous a livrée. Et cette matière, parce qu'il explique tout le long, elle va être utile. Elle va nous être utile. Voilà.
La même question, Pierre Rimbert. Le même exercice. résumer le film, enfin, donner envie ou pas de voir le film de Pierre Karl sur...
Bon, je l'ai vu, mais... Je sais pas, j'imagine que si Pierre a intitulé son film « La sociologie est un sport de combat », c'est moins pour parler de sport et de sociologie que de combat. Et Bourdieu est quelqu'un qui a beaucoup combattu, qu'on voit dans ce film en train de combattre notamment les lieux communs du discours capitaliste qui est véhiculé par un certain nombre de faux savants. Et il a aussi beaucoup combattu le système de production de l'idéologie dominante. Et il me semble que peut-être un des défauts de ce film, c'est de pas suffisamment insister sur cette production de l'idéologie dominante, qui est un sujet que Bourdieu a beaucoup abordé et qui aurait peut-être permis d'expliquer pourquoi, par exemple, Arte n'a pas diffusé ton film ou a refusé de le diffuser, et qui explique aussi peut-être pourquoi d'autres journaux en ont parlé et qui le rend acceptable pour un certain nombre de médias.
Gilles Palbastre.
Moi, je veux dire, déjà, par exemple, c'est aussi long qu'un un mauvais match de foot avec des prolongations. Ça fait 2h30 un mauvais match de foot avec des prolongations. Et on l'oublie trop souvent.
Loups, le pack des loups fait 2h30. Hein.
Oui, voilà, par exemple, et qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on est surpris qu'on fasse un portrait d'un sociologue. Il y a des tas de portraits de gens qui n'ont rien à dire et qui durent assez longtemps quand même en télévision. Ça, c'est le deuxième point.
C'est pas tellement un portrait, hein.
Enfin, en apparence.
En apparence, voilà. Non, le fait qu'il y ait une personne comme ça, je veux dire. Mais
on voit pas son chien, on voit pas sa femme, on voit pas sa piscine.
Oui, heureusement.
On sait simplement qu'il joue au tennis et qu'il nage en écrivant ses bouquins. Voilà, l'été. Mais on n'a pas la preuve. On n'a pas les images de Bourdieu avec sa raquette.
Justement, c'est un peu en hors champ, donc c'est plus excitant. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une formidable arme pour ceux qui ont envie de se battre et qui parfois ont du mal à se battre, surtout dans des périodes plus dures. Là, ce temps-ci, bon, il y a des mots qui sont reprononcés, le mot prolétaire, le mot ouvrier, etc. Alors, on a l'impression...
C'est toi qui les prononces. Hein,
si Jospin l'a prononcé, on l'a lu une ou deux fois dans Libé, enfin, ça faisait longtemps, hein. Dans Libé, on l'avait pas lu depuis longtemps, ce mot-là, enfin, ou alors avec du mépris derrière. Enfin, là, il y a toujours le mépris, mais bon, on sent que ça devient un produit. Alors donc, tous ces médias un peu basés sur le marketing sont obligés d'y aller. C'est un formidable outil pour ceux qui ont envie de lutter. Moi, je sais qu'en tant que journaliste, ça m'a permis d'avoir des grilles de lecture du monde, des grilles de travail, des grilles d'analyse. Alors, c'est pas...
C'est ça, tu l'as tapé ça avant le film.
Bien sûr.
C'était un vieux lecteur de Bourdieu.
Voilà, mais ça peut donner ces outils-là ou envie d'acquérir ces outils-là pour traduire le monde. Je lisais là dans un petit bouquin d'Éric Neveu là sur la sociologie du journalisme, il y a que 16% de journalistes qui ont fait des études de sciences sociales. Et encore, c'est 16% sciences sociales globales. Ça peut être histoire, ça peut être psycho, etc. Donc on s'aperçoit que il y a très peu de journalistes, par exemple, qui ont des grilles d'analyse du monde. On n'a pas fait de sociaux, par exemple. C'est important pour parler du monde. Ils n'ont pas ces grilles d'analyse. Ils n'ont pas cette possibilité-là de traduire le monde autrement que les bons, les méchants. Même si effectivement, nous aussi, on peut le traduire entre les bons et les méchants, mais enfin, c'est pas forcément les mêmes. Non, c'est un film qui donne. Enfin, on ressort de là, on a envie de se battre, oui.
On sait qu'aujourd'hui, une proportion très importante, qui est de l'ordre de plus de 50% des gens, ne lisent aucun quotidien.
Pierre Bourdieu.
Autrement dit, sont voués, corps et âme, à la télévision. Or,
sur la télévision, un film de Gilles Lott.
Si elle fait ce que je dis, c'est-à-dire si, par exemple, en mettant en tête des faits divers, bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. La télévision a cette propriété qu'elle montre. Bon. Mais on peut paradoxalement cacher en montrant. Bon, alors mettons, évidemment, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer. Mais on peut aussi cacher en montrant ce qu'il faut montrer. Mais en le montrant de telle manière que on le décompose, on le déconstruit, on le rend insignifiant. Sur ce point, je prends un très beau travail de Patrick Champagne, et il montre comment les journalistes, portée à la fois par les propensions inhérentes à leur métier, à leur vision du monde, à leur formation, à leur disposition, etc. Comment les journalistes, sous ces différentes contraintes, sélectionnent dans la réalité sociale et dans cette réalité particulière qu'est la vie des banlieues, un aspect tout à fait particulier qui ne correspond en général pas à grand-chose.
Serge Alimi.
Moi, je voulais juste rebondir un peu à propos du reproche qu'on pourrait éventuellement faire au film. C'est qu'effectivement, il y a une dimension qui est implicite, qui est pourquoi certaines idées ne passent pas, pourquoi certaines idées ne sont pas diffusées. Et cette dimension implicite, Bourdieu l'a rendue explicite quand il a fait sur la télévision, quand il a fait Contrefeu, quand il a en quelque sorte montré la bête médiatique de l'intérieur et comment elle fonctionne. Et je crois que cette dimension-là aurait été intéressante dans le film parce que elle permet d'expliquer le désavantage presque structurel qu'ont les idées contestataires, radicales ou tout simplement les idées qui cherchent à expliquer ce qu'est le monde social par opposition à celles qui ne cherchent qu'à conforter ce qui se passe. C'est donc la dimension qui manque, parce que quand on veut savoir pourquoi certaines idées ne passent pas, il faut savoir comment fonctionne le système de l'information. Il faut informer sur l'information, et on remarque par exemple que dans toute la presse, il n'existe pas de journal qui informe sur l'information, qui nous en dise autant sur Le Monde ou sur Libération ou sur L'Express ou sur Le Nouvel Observateur.
Maintenant, il y a PLPL, il faut dire qu'il y a enfin quelque chose qui nous informe. Alors, en oui. détail.
Oui, enfin, effectivement, vous évoquez
à juste titre.
vous évoquez ce journal-là pour lire Palu. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il existe depuis à peu près un an, personne n'en a parlé parce que je crois que c'est le type même du discours qui n'est pas récupérable. Qu'un film d'un sociologue qui parle du monde social, à la limite, on peut en parler puis passer à autre chose. Mais quand il s'agit d'aborder l'univers dont les journalistes sont en quelque sorte les habitants permanents, ça leur est plus difficile. En quelque sorte, cette critique, on l'a dans le film.
Et les propriétaires farouches.
Et les propriétaires, donc elle est un peu implicite, puisque Pierre Carle nous dit, regardez, les journalistes disent qu'on ne peut pas donner 2 heures à Pierre Bourdieu, que ça ennuierait tout le monde. Je vais consacrer 2 heures à Pierre Bourdieu, et vous voyez, c'est pas ennuyeux, et ça vous apprend des tas de choses. Mais en même temps, il aurait fallu expliquer pourquoi les journalistes ne voulaient pas donner 2 heures à Pierre Bourdieu. Et c'est peut-être une dimension qui est un peu absente du film.
Pierre Carle.
Oui, je vais répondre rapidement aux critiques qui m'ont été faites par Pierre Humbert et Serge Alimi. Moi, je pense que le travail de Bourdieu est subversif.
Pas des critiques très méchantes, non, hein, c'est pas très féroce.
Je les découvre pas, hein, on en a déjà discuté avant. Je pense que le travail de Pierre Bourdieu est subversif déjà dans le simple fait qu'il nous permet de comprendre les mécanismes de domination, d'exploitation, d'aliénation, d'auto-exploitation, etc. Et je pense que c'est ça ce qui est le plus subversif chez lui, et ça s'applique à tous les domaines de la société, y compris les médias, bien sûr. Voilà, donc effectivement, le film n'insiste pas non plus trop sur ses interventions publiques au sens plus politique, vraiment strictement politique. Et en fait, le travail strictement scientifique de Bourdieu, simplement le fait de produire de la science sociale, devient une arme, se transforme en arme politique. Mais après, effectivement, tout ça est complémentaire, et c'est pas par hasard que j'ai participé moi-même à l'aventure de Pour lire Palu, un journal qui, à côté de ce film, avec des gens que je ne citerai pas, parce que ce sont des collaborateurs anonymes qui...
Masqué,
oui, parce que si on veut parler des médias, avoir des informations de première main et de bonnes informations, il faut le faire avec des gens dont on ne dévoile pas l'identité, avec des traîtres. D'ailleurs, c'est ce qui figure dans la bande-annonce du film. Bourdieu explique que pour avoir certaines informations, il faut avoir des gens qui utilisent des moyens comme la ruse, et qui soient parfois des traîtres dans leur propre milieu, ce que d'ailleurs Bourdieu est un petit peu, à sa manière, un traître dans son propre milieu académique. Universitaire.
Il vend la mèche, quoi. C'est quelqu'un qui vend la mèche.
Exactement.
Que la limite est particulièrement difficile des situations de parole publique.
Oui, tout à fait.
Dans ces situations,
vous avez fait assez de pour votre livre et moi pour le savoir. Alors, là,
le discours dominant est le discours qui se propage souvent par ceux qui ne pensent pas qu'ils propagent le discours dominant. Et avec la meilleure bonne foi du monde, un journaliste matutinal nous dit « le marché, c'est naturel », par exemple. Eh bien, ce journaliste est-il coupable? Fait-il mal son travail? Est-il bien souvent souvent, il est lui-même manipulé. C'est ce qui explique une explication que donne Bourdieu. Le manipulant, puisqu'il nous manipule quand il nous dit ça quand même, hein, que le marché est naturel, eh bien, est lui-même manipulé. Et ainsi, il y a le dominant, le dominé et la domination du dominant. C'est une explication, là, je vous fais vraiment très court et très simple, mais c'est une petite chose qu'on peut... qui finalement est une très grande chose, mais qu'on peut choper dans le film que Pierre Karl a consacré à Pierre Bourdieu. Il y a le problème, évidemment, vieux problème, de faire comprendre, de passer de ce qui est une science, la recherche en sciences sociales, c'est une science avec son langage, et qui n'est pas nécessairement, et même pas du tout, accessible aux profanes. Alors comment est-ce que on passe de cette science, de ces écrits, à l'homme du commun? C'est le trajet qu'essaye de faire Bourdieu depuis un certain nombre d'années et que Pierre Karl, dans son film, tout simplement, accompagne.
Serge Limi ?
Oui, il ne s'agit pas toujours de découvrir, il s'agit aussi de répéter. Parce qu'en face, on répète en permanence. En face, vous avez tous les jours le discours néolibéral qui est ressassé, qui est expliqué, qui est en quelque sorte rendu pédagogique. Si on n'est pas en permanence là à expliquer pourquoi ce qu'on nous a expliqué n'est pas la bonne explication, pourquoi il y aurait une grille alternative, les gens recommencent à intégrer le discours dominant. C'est pour ça qu'on a parfois ce travail qui n'est pas forcément valorisant de répéter, de rappeler des choses, pas de découvrir.
Parce que c'est vrai que la technique, la tradition presque médiatique, c'est le débat. Hein, si on oppose, on va voir Bourdieu et, je sais pas moi, Minck, par exemple, enfin on exagère un peu, et puis voilà. Hein.
Solaire, je crois qu'il aimerait beaucoup.
Voilà, voilà. Bon, donc, et puis voilà, on balance.
Messier et Beauvais, il y en a beaucoup de ce type.
Ouais. Voilà. C'est un quart d'heure pour chacun. Quoi, hein. Là, c'est pas ta technique du tout. Toi, c'est uniquement... Bourdieu, il polémique pas, il n'a pas d'adversaire au cours de ce film. Il s'explique.
Non, c'était l'objet du film, c'était d'aller au-delà des dispositifs de débat d'idées dominants dans les grands médias, notamment la télévision, où l'on donne exactement le même temps de parole, dans le meilleur des cas, hein, dans le meilleur des cas, on donne le même temps de parole à des gens comme Bourdieu et à des gens qui relayent le discours dominant. Et ça, Serge Limi l'expliquera bien mieux que moi, mais c'est totalement handicapant pour les gens qui dont le discours est minoritaire ou dissident que d'être mis dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il y a un tel handicap à rattraper pour avoir une chance d'être entendu que lorsque l'on met les gens dans ce type de dispositif, on favorise bien entendu ceux qui défendent l'idéologie ambiante, hein, le discours dominant, et on handicape les autres, notamment les gens comme Bourdieu. Donc effectivement, moi, le film, je n'avais pas donné la parole à des gens qui l'ont déjà suffisamment, à tous ces détracteurs ou adversaires qui peuvent aller pavaner dans les médias. Je voulais déjà qu'on puisse entendre tant soit peu ces analyses, quitte ensuite à les critiquer, bien sûr, mais qu'on puisse déjà au moins les entendre.
Mm-hmm. Non, moi je crois que l'explication du film, elle est fournie par le documentaire que Pierre Karl a consacré à l'émission de Daniel Schneiderman, puisqu'il remettait en cause le format du débat, en expliquant que quand Bourdieu avait voulu venir à la télévision, on lui avait imposé la forme du débat, forme qu'on n'avait pas du tout imposée à Jean-Marie Messier deux ans plus tard. On estimait que Jean-Marie Messier pouvait s'exprimer seul dans cette émission.
Il faut dire que Bourdieu a fait grand cas de son passage dans l'émission de Daniel Schneiderman, où il était, on peut dire, opposé à un certain nombre de grands pontes des médias, dans une sorte de pugilat. Il était invité à un pugilat.
C'est-à-dire qu'il était sur un plateau.
C'est comme ça qu'il l'a décrit.
Il y avait Jean-Marie Cavada, où il y avait Guillaume Durand, qui l'interrompait assez souvent, notamment l'un des deux, pour lui dire « Vous n'avez rien compris au débat, vous n'avez rien compris à la télévision ». On se disait qu'il est extraordinaire qu'on fasse venir quelqu'un qui déjà s'exprime assez peu pour lui couper la parole en permanence, surtout quand ceux qui lui coupent la parole en permanence sont ceux qui ont en permanence la parole.
Chaque fois que vous offrez la parole aux syndicalistes, et lorsque vous voulez la donner à un autre, vous nommez
l'interlocuteur. Alors ça, vous pouvez vérifier.
Je me prends en flagrant délit. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Bourdieu. Encore une fois, on est entre gens fondamentalement respectables. Me semble-t-il, en ce qui me concerne, c'est le sentiment que je vous porte. Je ne peux pas vous laisser dire une inexactitude.
Ah, c'est vrai.
Remontons, si vous le voulez, le passage que nous venons de voir. Je dis, qui veut prendre la parole? Monsieur Perben, monsieur X, monsieur Y, monsieur Thibault. Ils étaient quatre. Non, je ne laisse pas dire une inexactitude.
Il y a plusieurs occurrences.
Ils étaient quatre, monsieur Bourdieu. Vous ne pouvez pas dire que lorsque je ne peux pas laisser dire qu'on je
fais.
On repasse.
Donc, en plus, non, pas forcément dans ce qu'on va dire. C'est comme si on confrontait Zidane au foot avec Carlos, le chanteur. Je veux dire, c'est pas la même division. Enfin, et Maître Cavada et Guillaume Durand avec Bourdieu, c'est pas la même division intellectuelle. Enfin, faut quand même dire les mots. C'est quand même rageant pour un intellectuel comme Bourdieu d'être confronté à quelqu'un comme Cavada et Guillaume Durand. Alors,
Monsieur le Président, moi j'ai rien dit.
Hein. Non, mais en plus, mais je dis pas que ce sont des gens qui sont bêtes. Je dis ils sont pas dans la même division.
Non, mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai beaucoup filmé Pierre Bourdieu avec des interlocuteurs étrangers, notamment en Allemagne par exemple. Là, ils savent dans quelle division joue Bourdieu. Ils savent qu'il est dans la même division qu'Habermas, quoi, pour citer quelqu'un d'un niveau équivalent, au niveau intellectuel. Tandis qu'en France, on continue de vouloir lui opposer des BHL ou des solaires. Enfin, surtout quelqu'un comme BHL, qui n'est même pas reconnu par ses pairs philosophes. Donc, vous voyez, alors que Bourdieu, sa reconnaissance dans le milieu scientifique en tant que sociologue, elle existe. Et c'est même l'un des plus importants sociologues vivants.
Vous voyez qu'on vient un petit peu, par exemple, Serge Halimi pourrait nous parler de ça, de la place de l'intellectuel finalement. Mais si je pense à des figures comme celle de Sartre ou celle de Pierre Vidal-Naquet, est-ce que je sais pas, mettons Peggy, etc., travaillaient dans des conditions différentes, avaient un accès différent au public, au grand public?
Je sais pas, je pense que si on évoque par exemple Zola, le J'accuse ne passerait nulle part dans la presse à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop long. C'est un texte qui est impubliable dans la grande presse. Là, maintenant, il y a une idée, il y a un formatage, si vous voulez, il y a une espèce d'arrogance de la profession qui impose systématiquement les conditions d'expression des gens à qui elle s'adresse. Et les gens à qui elle s'adresse, qui ont la capacité d'analyser la manière dont on passe, les effets d'une publication ou d'une autre, peuvent estimer que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Là-bas, si j'y suis, émission autour de la sortie du film « La sociologie est un sport de combat » consacré à Pierre Bourdieu, 2 mai 2001.
Pour qui le film, Pierre Carl?
J'espère que pour tout le monde. Hein. Enfin, je crois que... Enfin, moi, je l'ai fait pour que tout le monde puisse y accéder. Enfin, je crois qu'il y avait une volonté... De la même manière que lui se met au niveau de ses interlocuteurs, on le voit dans le film, quand il va dans une radio associative, il développe les concepts comme ceux de capital culturel, par exemple, en se mettant vraiment au niveau de ses interlocuteurs. Moi, j'ai essayé de faire, je dirais pas un film grand public, mais en tout cas, oui, qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et je pense que n'importe qui peut voir ce film. J'espère.
Selon vous, ce film doit toucher qui et va toucher qui?
Je suis à peu près sûr qu'il va pas du tout toucher la grande quantité de ses pairs et sociologues. Ça, c'est à peu près sûr. Les premières réactions que j'ai eues autour, ne serait-ce qu'à l'annonce du film, étaient extrêmement négatives. Ça, je me souviens. C'est-à-dire, ils ont parlé de culte de la personnalité. J'ai déjà des grandes critiques dans ce sens-là ont déjà été formulées. De vulgarisation mal faite, etc. Et les premiers avis de sociologues dont j'ai entendu parler, qui n'avaient d'ailleurs même pas vu le film, qui n'avaient fait que, évidemment, de facto, quand on entend parler, le titre a été détesté, par exemple. Le titre, ils ont considéré que c'était une espèce de captation vraiment complètement scandaleuse de la sociologie. La sociologie, pour ceux pour qui elle n'est surtout pas un combat, encore moins un sport, n'en parlons pas, et qui se reconnaissent comme sociologues, qui n'ont pas envie d'être des sportifs combattants, quoi. Voilà.
Il y a un risque et un danger qui serait de croire que le travail de Bourdieu est très accessible. Quand on a vu le film, on se dit, tiens, mais finalement, ça y est, j'ai compris Bourdieu. Et là, c'est un des dangers du film, de créer cette illusion, alors qu'il faut quand même, pour accéder à ses principaux livres, travailler, bosser. Et le film n'y donne pas accès, comme ça, facilement. Maintenant, l'idée, c'était aussi d'essayer de montrer cette mécanique d'esprit, cette façon de se méfier en permanence des évidences, des idées reçues. Pas cette façon.
En fait. Ça rend un peu parano, hein. Bourdieu nous rend un peu parano. Non, mais attendez, vous voyez ça, mais il y a quelque chose derrière.
Mais il faut être parano. Enfin, si c'est ça, être parano, se méfier du sens commun, des évidences, des idées reçues, du discours dominant, ben oui, il faut être parano. Si c'est ça, être parano, hein, bien sûr. Oui. Et je crois que c'est une attitude, enfin, c'est quelqu'un qui éveille notre esprit critique en permanence, ouais. Y compris d'ailleurs pour l'étudier lui et le prendre lui comme objet. C'est-à-dire qu'on peut après retourner les outils qu'il nous donne contre lui, hein. C'est ça ce qui est intéressant chez Bourdieu. C'est qu'on peut lui appliquer les outils qui nous livrent.
Voilà, alors le film de Pierre Carle, La sociologie est un sport de combat, sur, vous avez compris, Pierre Bourdieu.
Tous les jours, on est insulté, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui savent ça, mais qui disent rien, quoi.
La sociologie est un sport de combat.
Et qui sont conscients de tout ça, et donc qui entretiennent, ça les arrange de dire oui, vous savez, je travaille dans la zone franche, c'est très dur.
Un film de Pierre Carle.
Mais en fin de compte, ils ne font pas le poids. La preuve, on a des profs qui sont... On nous ramène des profs qui ont 20, 22 ans. On leur a déjà couvé le crâne. Si vous voulez être muté, vous pouvez passer dans la réserve, faire vos classes. Et après, vous pourrez aller dans votre Toulouse natale ou dans votre, je ne sais pas, Cantal, je ne sais pas où. Ils arrivent, ils sont stressés comme ça. Et ben, les gamins, ils ne sont pas dupes. Ils sentent tout ça. Je ne sais pas, non. Vraiment, il y a des gens qui entretiennent vraiment notre décalage. Ça sert à rien, Bourdieu, il est là. Bon, c'est pas Dieu, c'est Bourdieu. Qui fasse trop.
Ce qui s'est dit, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, m'a beaucoup intéressé. Je pense que si au moins ma venue a servi à faire sortir ces choses qui se sont dites, c'est déjà pas mal. Voilà. En particulier ce qu'a dit Saïd, bon, il y a énormément de vrai. Quand il dit, en gros, c'est toujours dissymétrique, quoi. C'est toujours à nous de faire des concessions. Il y a des choses, à mon avis, très très importantes. Ce qui fait problème, me semble-t-il, dans ce qu'il a dit, c'est la conclusion pessimiste. Bon. Mais c'est à nous de nous bouger. Peut-être qu'il faut faire des concessions entre nous. J'ai vieux comme le monde. Enfin, les dominants divisent les dominés.
Alors, il y a cette longue séquence qui se passe donc au Valfouré, où Bourdieu, on peut dire, est confronté, hein, avec un certain nombre... ce sont des éducateurs.
Ce sont des
travailleurs sociaux.
C'est un public varié. Il y a à la fois des travailleurs sociaux, il y a des jeunes de banlieue ouvrières en déclin, hein, pour être précis. Il y a également des enseignants, des profs, enfin, un public assez... qui n'est pas forcément très homogène. Il se fait donc critiquer par certains jeunes de banlieue.
Enfin, il suscite un dialogue entre ces jeunes de banlieue, hein, qui s'engueulent entre eux, enfin, qui polémiquent.
Et puis, à un moment donné, il assimile un peu à ces gens qui viennent en banlieue, sans connaître la... Enfin, c'est comme ça, en fait, qu'il est perçu, à un moment donné, par certains de ces jeunes, là, qui le mettent dans le même sac que n'importe quel sociologue de service, ou jaune, comme dit Bourdieu, à un moment donné. Et... Donc à un moment donné, effectivement, quand Bourdieu se retrouve un peu mis en difficulté, attaqué par ces jeunes, au lieu de répondre de manière démagogique, comme l'aurait fait je ne sais quel intellectuel médiatique, en disant « oui, c'est formidable, je comprends votre souffrance », tout ça, ils engueulent. Ils engueulent, ils leur disent « faites pas de... »
Il leur dit d'abord, c'est vachement... Non mais oui, ils engueulent pas comme non. Ça, il leur dit d'abord tout ce qui a été dit là est intéressant, ce qui est le cas d'ailleurs.
Oui, bien sûr, non, mais ça va de soi, enfin, il écoute ce qui se dit, il le reçoit, il entend et... Il essaie plutôt de les stimuler, de leur dire, bon, maintenant, allez lire Sayad, allez lire les travaux d'un sociologue qu'il a publié dans sa collection Libère, au Seuil, parce que ça va éveiller votre esprit critique, votre niveau de conscience, ça va vous faire prendre conscience de choses que vous ne savez pas forcément.
Non, ce que je veux dire juste, effectivement, il leur dit, peut-être qu'il y a des gens qui en savent plus de votre histoire que vous-même. Parce que effectivement, ils ont travaillé à lire votre histoire, et que une des choses importantes, c'est que on commence à savoir des choses, à pouvoir verbaliser à partir du moment où on connaît un peu son histoire.
Ah ben, la chute du film, la dernière phrase du film, c'est on peut brûler des voitures, mais à condition que ce soit politique. C'est ça la dernière phrase.
Mais avec un objectif.
C'est bien beau d'aller balancer des cailloux ou de casser des voitures, mais il faut un travail politique de mobilisation. Et un travail politique, du coup, de diffusion de toute cette pensée critique. Ça commence par là, ça commence par mettre en place ce que Bourdieu et d'autres sont en train de mettre en place. Une sorte de d'école syndicale, ça passe par tout un tas de choses que en sociologie, nous, on connaît, mais qu'on ne fait pas passer. C'est simplement mettre à disposition, je crois que c'est ça qui est important, mettre à disposition un certain nombre d'outils, de critiques, de réflexions, qui sont aussi des instruments de lutte politique, parce que la domination est de plus en plus symbolique, et voilà. Et c'est une des nouvelles données de...
Il a sensu. Parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont été les sangsues du monde ouvrier, qui l'ont pompé, et après qui sont barrés une fois que c'était gavé. Dire, bon, voilà, le boulot d'intellectuel, c'est pas être une sangsue, c'est donner des armes, des outils de bataille, des outils de lecture aussi, et qu'effectivement, il y a des convergences.
Pierre Carl.
Oui, enfin, c'est vraiment grâce à des gens comme lui qu'on sait quels sont les combats à mener, quoi. Et il faut pas se tromper d'ennemi.
C'était Bourdieu ni maître, une nouvelle version d'un entretien de Daniel Mermet du 2 mai 2001 autour du film de Pierre Carl consacré à Pierre Bourdieu. La sociologie est un sport de combat. Vous pouvez aussi commander le DVD de ce film sur le site ateles.org. Merci à Pierre Carl, Thierry Di Cepolo, Franck Poupeau, Serge Halimi, Pierre Rimbert et Gilles Balbastre. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, à la réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch, et le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, est le 01 56 40 37 37.
Ça y est, c'est le moment, je me lance.
Fais attention, tu pourrais tomber.
Dans le développement durable, panneaux solaires, pompe à chaleur.
Pour ta maison? Et la Matmut, elle va t'assurer?
Oui, monsieur, la Matmut, elle y croit, elle, au développement durable.
Au pruneau, l'érable. Au pruneau.
Selon conditions définies au contrat performance.
Quand on achète en gros, on a des prix. Alors pourquoi, si j'achète plein de produits dans la même banque, ça ne me coûterait pas moins cher?
Chez LCL, plus vous avez de produits, plus c'est avantageux. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance.
Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent, voire conditions en agence ou sur lcl.fr.
France Inter et la MC93 à Bobigny présentent à partir du 27 janvier le Festival International Le Standard Idéal. Berlin et David Martin ouvriront cette 9e édition avec le clavier bien tempéré de Bach, une révolution musicale à la recherche d'une partition théâtrale. Lisbonne célèbre le songe d'une nuit d'été et de Fairy Queen. Théâtre, opéra baroque, film, installation d'artistes par le Teatro Praga, qui signe aussi Israël, un spectacle performance bluffant. Budapest et les acteurs époustouflants des actes de Pitbull. Retrouvez-les dans les émissions de France Inter.
France Inter, partenaire de la tournée Chansons Ordinaires de Miossec. Miossec en tournée dans toute la France et en concert au Casino de Paris le 29 mars. Retrouvez Miossec dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Bonne journée sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, deux nouveaux corps viennent d'être retrouvés dans l'épave du Costa Concordia, ce qui porte donc à 15 le nombre de victimes du naufrage. Le commissaire du gouvernement en charge de la gestion de la catastrophe a par ailleurs donné aujourd'hui son feu vert pour le début des opérations de pompage du carburant du navire. Elles sont parfaitement compatibles, dit-il, avec la poursuite des recherches de disparus. Le navire est stable, pas de risque qu'il glisse vers le fond. Le Costa Concordia a dans ses cuves pas moins de 2380 tonnes de mazout. Les combats à Bani Walid entre fidèles à Muammar Kadhafi et ex-rebelles se poursuivent cet après-midi. Les combattants pro-Kadhafi contrôleraient désormais certains quartiers de la ville. 4 personnes et une vingtaine d'autres ont été blessées depuis le début des combats. En France, le tribunal de commerce de Paris étudie depuis le début de l'après-midi les deux offres de reprise du quotidien économique La Tribune. Les deux offres sont radicalement opposées puisque France Économie Région associée à Imedia propose de reprendre le journal pour 150 000 euros. La financière patrimoniale d'investissement, elle, a mis 1 million d'euros sur la table. Les salariés, eux, ont voté vendredi à plus de 70% pour l'offre de France Économie Région Imedia pour une version internet et un hebdomadaire papier. Les élus du CE de Cifrance, eux, ont voté contre le plan social proposé par la SNCF aujourd'hui, premier actionnaire de la compagnie de ferry. Ce rejet va donc déclencher automatiquement l'envoi des premières lettres de licenciement. 300 au total pour les salariés qui n'ont pas manifesté leur volonté d'être reclassés au sein de la SNCF. Un homme de 58 ans a été tué ce matin en Corse alors qu'il était au volant de sa voiture. Ça s'est passé sur la commune de Brando en Haute-Corse. L'homme était cadre dans une entreprise de BTP et ancien dirigeant du Sporting Club de Bastia. L'étau se resserre autour du sénateur socialiste de l'Hérault, Robert Navarro. 10 personnes interpellées, parmi elles, 4 personnes sont depuis ce matin en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance. Et ces 4 personnes en question ne sont pas n'importe qui pour Robert Navarro, Pascal Victory.
Les 4 personnes placées en garde à vue sont des très proches de Robert Navarro. Il y a d'abord son épouse, Dominique Navarro, qui est l'ancienne secrétaire au Sénat du président du groupe socialiste, François Rebsamen. Il y a le maire d'Avesnes, Guy Cabalet, sa femme et un autre proche du couple Navarro. Ils sont entendus dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour abus de confiance après le dépôt, il y a quasiment un an, en avril 2011, d'une plainte par les instances nationales du PS. En cause, des factures réglées par la Fédération de l'Hérault, billets d'avion, factures de pizza pour 20 000 euros qui n'auraient pas de rapport avec le fonctionnement de la Fédé. Il y a aussi des frais d'achat de fournitures de bureaux, là encore payés par la Fédération mais livrés au Parlement européen en 2005 et 2006, à l'époque où Robert Navarro était député européen. Aujourd'hui, sénateur de l'Hérault, il pourrait être entendu directement par le juge chargé de l'affaire dans les jours à venir. Pascal Victory, France Bleu Hérault pour France Inter.
Enfin, le dernier résultat dans le tableau masculin de l'Open de tennis d'Australie. Le numéro 1 mondial et tenant du titre, Novak Djokovic, s'est qualifié pour les quarts de finale cet après-midi. Il a battu en 4-7 l'Australien Leighton Hewitt.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dorda reçoit...
Je suis, je le répète...
Benabar...
Politiquement correct...
Maya Barsoni...
Quelques mots...
Et Vincia.
Paris, c'est pas assez beau pour boire que de l'eau. Paris, c'est trop dur sans une bonne biture.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Allez, c'est à vous Frédéric Lodéon. Il est 16h04. Allez sur Inter.
Bonjour. Bonjour, bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, nous allons célébrer le nouvel an chinois avec un pianiste fort connu dans le monde entier. Lang Lang, quand il va jouer en Chine, il lui faut carrément une protection policière. Il y a des enfants qui viennent à ses concerts, il donne des conférences de presse, il signe des montagnes de CD. Et puis il est content comme ça, il est content de cette ambiance. Il n'oublie pas quand même la culture qu'il a reçue de ses professeurs. Et il voyage partout, il a sa propre marque de basket, de chaussures de sport. Il prend des avions privés, enfin bref, c'est une légende vivante en Chine, mais c'est surtout un très grand pianiste. Le voici tout de suite dans 8 souvenirs à l'aquarelle opus 1 de Tan Dun, mais pas tous les souvenirs, simplement la conclusion fort poétique d'ailleurs, Sun Ren. Thank you. Sun Wen, oui, on peut traduire ça comme ça, peut-être, comme je vais le dire, je vais oser, pluie de soleil, c'est joli, c'est une sorte d'oxymore de deux contraires à coller, tiré de 8 souvenirs à l'aquarelle opus 1 de Tan Doon, par Lang Lang, c'était au Carnegie Hall de New York, il avait juste 21 ans, et déjà des triomphes à son actif, un vraisemblable triomphe d'ailleurs, et ça continue aujourd'hui. Alors Lang Lang a eu des professeurs quand même, il dit que c'est mieux pour avancer, pour ne pas paraître trop bizarre, c'est lui qui dit ça comme ça, et notamment au Curtis Institute, il a reçu l'enseignement de Gary Graffman, et il a voulu, comme son maître, enregistrer la Wanderer Fantasy de Schubert, Fantasy du promeneur. Et pourquoi? Parce que justement son maître avait commencé par cette œuvre-là pour son premier disque en 1955, et Lang Lang a voulu tirer un coup de chapeau, rendre hommage à ce professeur bien aimé, et en plus ça lui va bien, parce que la Fantasy du promeneur, ou du voyageur, pour un virtuose qui est tellement sans arrêt à jouer entre les fuseaux horaires, eh bien c'est bien trouvé. En plus, et plus important encore, il joue ça avec beaucoup d'allégresse, de vivacité, car souvent l'allegro qu'on va entendre est pris de manière un peu lourde et ça nous reste sur l'estomac, mais pas du tout. Là, il s'envole littéralement vers le succès que lui fera à la fin du morceau le grand public du Carnegie Hall.